Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour à tous.
Et bonjour Gérard.
Et bonjour Odile.
Nous vous proposons pour cette émission d'Amnesty International deux parties. Une première partie sur l'accueil des migrants. Et c'est pour ça que j'ai invité Gérard Schmidt-Bala, qui est membre d'Amnesty et qui va un peu présenter l'association dont il fait partie depuis le début, les Amis de Chandourène. Donc toute la première partie va être consacrée à ce thème et la deuxième partie, nous parlerons du festival du film qu'Amnesty va faire courant mars et notamment d'une grande soirée sur la Chine, hein, puisque la Chine est d'actualité en ce moment. Hein. Pas seulement avec le coronavirus, mais aussi avec toutes les violations des droits humains. Voilà, donc en première partie, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Schmidt-Bala. Bonjour Gérard.
Eh bien bonjour Régis.
Si tu veux te présenter un petit peu en deux mots et parler de la création des Amis de Chandourène.
Eh ben, ça date de 2016, quand en octobre, le gouvernement a décidé de vider la jungle de Calais. Ont été créés les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, et la commune de Champtercier, près de Digne, a accepté qu'un ancien centre de vacances soit transformé en CAO. Les résidents de la jungle sont arrivés vers octobre, et dès le début, des bénévoles sont venus pour proposer des ateliers, des cours de français, des sorties. Voilà. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on manquait un peu de coordination dans ce qu'on faisait. Donc en juillet 2017, nous avons créé l'association Les Amis de Chandourène pour servir de base pour toutes les actions humanitaires que ne pouvait pas remplir ni Amnesty, puisque en tant que militant d'Amnesty, on est tenu à défendre bien sûr le droit, l'accès au droit, les défenseurs des droits, mais on ne peut pas faire d'humanitaire directement. Et qui venait aussi en complément des actions du Secours populaire, qui était très présent auprès des demandeurs d'asile et des migrants, mais avec une petite spécificité pour cette association de venir en aide à tous les demandeurs d'asile, tous les migrants en général, et plus particulièrement à ceux, bien sûr, de Champtercier. Voilà, donc il y a eu beaucoup de bénévoles qui sont succédés à Chandourène, dans ce CAO. Et la fermeture officielle a eu lieu le 31 décembre 2018. Et juste avant le 31 décembre, tous les majeurs qui étaient là ont été réorientés vers d'autres structures un peu partout en France. Sont restés quand même des mineurs dans le cadre d'un... Alors, CPH Samna, c'est compliqué, c'est un centre provisoire d'hébergement, un service d'accueil pour les mineurs non accompagnés, avec une quarantaine de jeunes gens, jusqu'au 31 décembre 2019, où là, ce fameux centre provisoire a été officiellement fermé, mais avec une tolérance normalement jusqu'au 1er avril, le temps que Coalia, qui est l'association qui gère le centre, trouve d'autres points d'accueil. Voilà, il nous reste une quarantaine de mineurs encore qui attendent des OPP, c'est-à-dire des ordonnances de placement provisoire délivrées par les juges. Et d'ici donc deux mois, le centre devrait fermer.
Oui, alors les bénévoles donc continuent à venir au centre par rapport à ces mineurs.
Voilà, alors il y a quelques bénévoles. On est un groupe de 6-7 à venir tous les mercredis après-midi, à continuer à donner les cours d'alphabétisation et de français sur beaucoup de niveaux de débutants, donc l'alphabétisation jusqu'à des jeunes qui ont des niveaux de seconde, de première. Voilà.
Très bien. On va peut-être maintenant passer à une chanson de Grimmel White. Alors Grimmel White, c'était un grand ami d'Amnesty International. Et à cette l'occasion de son décès, nous avons décidé de faire un hommage pendant cette émission à Grimmel White. Donc vous allez écouter plusieurs chansons de ce grand artiste très engagé. On commence avec Le jour de clarté.
C'est maintenant.
Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté. Quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié. Pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur, et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier. Pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
Voilà, très belle chanson, ancienne mais qui n'a pas pris une ride et qui correspond bien à tout ce que, toutes les actions que font les militants d'Amnesty, des RESF, des Amis de Chandoraine, tous ces bénévoles qui vont en soutien à l'autre, qui apportent de l'amitié, du réconfort, hein, et puis de l'aide aussi pour remplir les dossiers, pour apprendre la langue, etc. Bon, alors maintenant, Gérard, tu vas peut-être nous parler, puisque le centre de Chandoraine accueille maintenant essentiellement des mineurs, de cette situation des mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA, parce qu'on observe la multiplication de cas où ces mineurs ne sont pas reconnus mineurs, sans être vraiment reconnu majeur. Alors, explique-nous un petit peu cette situation bizarre.
Voilà, juste avant de commencer, je voudrais juste faire un petit préambule. Avant cette émission, j'ai regardé un peu des documents et j'ai trouvé plusieurs fois le qualificatif de militant pro-migration. J'ai essayé de réfléchir, bien sûr, et je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, parce que les migrations font partie de l'histoire de l'humanité. C'est un fait, c'est un constat. Donc, ce n'est pas un sentiment ni une position politique. Donc, c'est un terme assez équivoque, voilà, dont il faut, je pense, se méfier. Et devant ce fait des migrations, on peut réagir effectivement très différemment. Ouvrir les bras à des humains en détresse, tourner le dos en fermant les yeux, ou bien rejeter ces gens. J'ai volontairement fait le choix de ne pas apporter de chiffres, car on leur fait dire ce qu'on veut, et on n'a pas assez d'éléments pour pour s'appuyer sur des constats fiables. Je pense que l'émission d'aujourd'hui a pour objet de parler de l'humain, d'humain, et non de faire une quelconque propagande. Toutes les extrapolations géopolitiques mettent en évidence une augmentation des migrations dans les temps à venir, à cause, entre autres, des dérèglements climatiques. Les murs et les barbelés ne seront jamais efficaces pour nous isoler dans une Europe sécuritaire et aseptisée. Parlons de ces MNA. Notre système social français prévoit de protéger tout mineur isolé sans parent ou représentant légal sur le territoire. Et ceci sans aucune considération de situation de pays d'origine et de légalité aussi de la situation sur le territoire. Il n'y a aucune condition de nationalité ou de régularité. En France, l'accueil, l'évaluation et la prise en charge des MNA, c'est-à-dire mineurs non accompagnés ou appelés aussi MIE, mineurs isolés étrangers, sont assurés par les conseils départementaux. Ceci en vertu du Code de l'action sociale et des familles, via les services de l'aide sociale à l'enfance. Selon le département, l'attitude peut changer énormément. Par absence de volonté politique, les collectivités peinent parfois à assumer leur mission de protection de l'enfance, notamment pour les étrangers. Ces mineurs sont parfois perçus comme un problème annexe des flux migratoires avant d'être perçus comme des enfants à protéger. L'évaluation de minorité est souvent fondée sur des positions essentiellement subjectives ou inadaptées, tendant à nier cette minorité, tandis que plus de la moitié des recours devant les juges pour enfants concluent à une minorité effective. Les tests osseux qui se veulent une caution scientifique pour ces pratiques sont remis en cause par de plus en plus de scientifiques eux-mêmes. Dès leur arrivée sur le sol français, quand ils y arrivent et qu'ils ne sont pas reconduits à la frontière d'une façon illégale, sans avoir pu faire une demande de protection, nombreux MNA se voient accusés de mentir sur leur âge, leur situation familiale ou les risques encourus en cas de retour dans leur pays. Bien souvent, des papiers officiels de leur pays d'origine sont considérés comme faux sans aucune preuve, alors que l'article 47 du Code civil prévoit que tout acte d'état civil fait foi, sauf si d'autres éléments établissent qu'il est irrégulier ou falsifié. Le nouveau dispositif de fichage des MNA, loin d'apporter une amélioration, va écarter les jeunes des dispositifs éducatifs, sanitaires ou juridiques, les renvoyant à la rue. Non mineurs, mais sans aucun papier de majeur, ils ne sont plus rien, ils n'ont plus d'identité, ils sont à la rue, à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Cette situation est assez intolérable pour tous les défenseurs des droits humains, car ce sont des enfants que l'on rejette, que l'on nie, et ceci est pour beaucoup insupportable.
Oui. Bon, on a des cas précis, hein, on ne va pas donner de nom, mais d'enfants qui ont été reconnus non mineurs et pourtant, quand on les côtoie, on se rend bien compte que ce sont des adolescents, quoi, hein. On voit leur réaction dans toutes les situations de la vie que, bon, ils n'ont pas encore 18 ans. Hein, ils sont, donc, je rappelle, hein, mineurs, c'est toujours les enfants de moins de 18 ans, hein, qui sont considérés mineurs. Donc, c'est vrai que c'est très difficile pour eux d'être rejetés à la rue, sauf s'il y a des personnes qui ont pitié d'eux, qui ne supportent pas que des enfants dorment dans la rue et qui vont les accueillir. Voilà. On va continuer avec Grimmel White et la chanson Jusqu'à la ceinture.
En 1942, alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre dans la Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit d'avancer. Sergent dit où mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con dit avancer. Sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonflés. En avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con il avançait. Dans la nuit soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort battant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con allait avancer. Morale de cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con d'avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à...
Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la chronique d'Amnesty International, toujours pour rester dans le thème de l'accueil des migrants. La chronique internationale, c'est le journal mensuel d'Amnesty International France. Les Dinois peuvent le trouver à la médiathèque de Digne, puisqu'on nous avons abonné cette médiathèque. Et c'est un journal d'actualité sur les droits humains, avec des faits précis, vérifiés, parce qu'Amnesty, vous savez, est très connu, très respecté pour la qualité de sa recherche. Et quand nous disons des choses, ça a été plus que vérifié. Donc, à l'heure où il y a des informations qui circulent plus ou moins justes, vous pouvez vous fier à ce journal, la chronique d'Amnesty International. Alors, celle du mois de février... Il y a un dossier central qui concerne un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est le burn-out des bénévoles, de ces gens justement qui viennent en aide aux migrants. Donc les journalistes de la chronique sont allés enquêter à Briançon et à Marseille et voilà ce qu'ils en retirent. Harcèlement des autorités, épuisement, détresse psychologique, les personnes qui accueillent chez eux les exilés sont parfois en grande souffrance. Difficile de se l'avouer, encore plus de se confier. Voilà, donc ils ont rencontré une militante chevronnée pour l'interroger sur la fatigue psychologique liée à l'accueil des exilés. Et elle nous a lâchés d'emblée. Je sature sur les récits de torture. Du coup, dès que le jeune qu'elle héberge commence à raconter les horreurs subies en Libye, par exemple, Anne use d'un subterfuge. Je lui mets un Charlie Chaplin. Je ne supporte pas qu'il ait vécu tout ça. Et si elle envisage de laisser tomber l'accompagnement, c'est qu'elle a atteint ce moment où il faut se protéger soi plutôt que de s'écrouler sans rien comprendre. Sauf qu'il n'est guère évident de détecter cet instant quand on a la tête dans le guidon. Et prendre du recul oblige à assumer un sentiment de faiblesse, voire une culpabilité vis-à-vis de ceux que l'on héberge, qui sont passés par de bien pires épreuves. L'épuisement des solidaires est réel, concède-t-elle. Il faut souvent briser un tabou pour en parler. En réalité, ces questionnements révèlent une urgence. Il faut aider les aidants. Certains aidants ont craqué ou se sont trouvés en grande difficulté avec l'impossibilité de reconnaître cette souffrance et d'en parler, rapporte Claire Bilorache, qui est psychologue à Briançon, pour Médecins du Monde. La plupart du temps, ils ont l'impression qu'ils ne seraient pas légitimes de se plaindre. Pourtant, ils doivent pouvoir déposer ce qui est trop lourd. Alors, je vous lis juste quelques passages de l'article, mais je vous conseille vivement d'aller le lire entièrement, soit sur le site d'Amnesty.fr, soit sur la chronique d'Amnesty à la médiathèque. Avec les problèmes créés par l'administration, beaucoup de gens qui aident dépriment, assure cette psychothérapeute à la retraite. Tout est fait pour compliquer la vie et nous pousser à abandonner. La répression des aidants et les condamnations pour ce qu'on appelle délit de solidarité suscitent une angoisse supplémentaire. À Briançon, une série de procès a frappé des maraudeurs patrouillant de nuit en montagne pour éviter la mort à des migrants alors qu'ils empruntaient des chemins escarpés balayés par des vents glaciales. Si en aidant, on risque une garde à vue, voire plus, sera-t-on capable de le supporter ? Beaucoup de gens restent en retrait à cause de ça. Les maraudeurs sont sans cesse arrêtés pour un essuie-glace ou un pneu défectueux. Ça n'incite pas à s'engager. On nous a appris la fraternité, dit l'un, et d'un coup, on nous la reproche. Avec en plus des violences policières très choquantes, les valeurs sont chamboulées. Cette fraternité qui est aussi liée à la montagne, puisque quand on est en montagne, les montagnards automatiquement vont porter secours quand il y a une personne en détresse. Et là, ce sont ces migrants, souvent très jeunes, qui ne sont pas du tout équipés pour traverser des cols en hiver, ont besoin encore plus d'une aide, parce que sinon c'est la mort qui les attend. Alors à Marseille, il y a deux psychologues cliniciennes, Marie Bois-Gibraud et Marine Le Saec, qui ont institué bénévolement deux initiatives, un groupe de parole pour les migrants et un groupe d'analyse de pratiques pour les solidaires, autour du réseau d'accueil El Mamba et d'un squat pour les migrants ouvert dans le quartier Saint-Just. Voilà. Elle note que les solidaires sont toujours à vider la barque à la petite cuillère, une barque que les institutions remplissent allègrement en se déchargeant des tâches que la loi leur intime pourtant d'assurer, comme l'hébergement des mineurs et des demandeurs d'asile. Voilà, donc vous avez un long article, là je vous ai lu juste quelques extraits. Vous avez une interview où on vous donne les conseils pratiques pour les familles d'accueil. Et puis vous avez un article sur l'Europe forteresse, à quel prix ? Obnubilée par sa volonté de tarir l'arrivée des migrants, l'Union européenne sous-traite de plus en plus la gestion de ses frontières et se montre peu regardante sur le comportement de ses prestataires. Voilà, on pense bien sûr des accords passés avec la Turquie, des accords passés avec la Libye. Voilà, et ça pose énormément de questions au niveau des droits humains. Et puis il y a un récit sur ces villages de Calabre qui ont accueilli des migrants et qui ont vu... Du coup, le village renaître et qui ont eux aussi trouvé l'administration un peu contre elle. Mais ça ne les a pas empêchés de créer de très belles choses. Hein. Il y a plusieurs villages qui ont fait ces expériences d'accueil, de rencontres et d'enrichissement mutuel. On va à nouveau donc continuer avec Grim Allwhite et sa chanson « La mer est immense ».
mer est immense, je ne peux traverser. Je n'ai pas d'aile pour la survoler. Préparez-moi un bateau pour deux. Nous ramerons mon amour et moi. Navire, je vois qui fend les flots, chargé à bord, et je ne sais si cet amour que j'ai en moi dans les abîmes m'entraînera. Contre un jeune chêne, je me suis appuyé, pensant qu'il pourrait résister. Mais hélas, il a plié comme un amour, il s'est brisé. Dans un buisson, j'ai posé ma main, croyant tendre fleur y trouver. Mes doigts aux épines, j'ai blessé la tendre fleur. L'amour est joie, l'amour est beauté, ainsi les fleurs en le matin. Mais l'amour passe et disparaît comme de la fleur rosée d'été.
Encore une très belle chanson. Voilà, maintenant nous allons parler du festival qu'Amnesty International, dans la région, Provence, Alpes, Corse, organise chaque année au mois de mars, depuis plusieurs années. Ça s'appelle Au cinéma pour les droits humains. Donc ce festival, bien sûr, est entièrement organisé par les membres d'Amnesty, qui, dans un premier temps, vont sélectionner des films, autant des longs-métrages, de la fiction, des documentaires, des courts-métrages de fiction, des courts-métrages documentaires. À partir de cette sélection, les groupes d'Amnesty dans la région vont choisir les films en fonction de leur intérêt, du moment, des actions d'Amnesty, etc. Et bien sûr, tous ces films traitent de sujets concernant les droits humains. Cela suscite énormément de rencontres, de ciné-débats. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont invités, d'acteurs, de scénaristes, etc. Et on intervient également énormément avec ces films dans les milieux scolaires pour faire ce qu'on appelle de l'éducation aux droits humains. Alors le groupe de Digne a choisi cette année de vous proposer, de proposer au public une soirée spéciale Chine. Quand on a choisi cette soirée, c'était un petit peu avant la crise du coronavirus. Hein. Mais c'est vrai que depuis, on parle énormément de la Chine et je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées par ce thème. Alors pourquoi la Chine à Digne ? Ben, vous savez qu'il y a la maison d'Alexandra Davinel. Et donc, il y a énormément de gens qui sont intéressés par l'Asie en général. Par les pratiques aussi de yoga, etc. Et puis, par tout ce qui vient de ce coin du monde, grâce notamment à ces voyages d'Alexandra Davinel. Et donc, on s'est dit, bah, c'est une bonne occasion, d'autant plus qu'il y avait deux films intéressants dans la sélection. Et nous allons donc faire une soirée avec ces deux films. Le premier film, on a d'ailleurs invité en partenariat l'association Alexandra Davinel, qui qui a de suite accepté ce partenariat et s'est montré enthousiaste pour participer avec nous à cette soirée. Et puis, on a un intervenant qui s'appelle Jean-Philippe Béja. Alors, c'est ce qu'on dit, une grande pointure hein, dans ce domaine, puisqu'il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'Université Paris 7, chinois, du Centre de formation des journalistes, de l'Université de Liaoning, littérature chinoise, et a obtenu un doctorat en études asiatiques à l'Université Paris 7. Il est entré au Centre d'études et de recherche internationale en 1975. Il est directeur de recherche au CNRS. Il participa à une conférence réunissant des journalistes à l'Assemblée nationale pour la célébration de l'année internationale du Tibet. Il est directeur scientifique du Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. De 1993 à 1997, il était directeur. Il est cofondateur de Perspectives chinoises. Il en fut directeur de la rédaction et actuellement membre de son comité de rédaction. Il dirige des thèses à Sciences Po et à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Ses travaux portent sur les rapports entre les citoyens et le pouvoir en République populaire, en particulier sur le mouvement pour la démocratie. Il a également écrit sur la vie politique à Hong Kong. Voilà, alors nous, on est très intéressés par ce pays, cette région du monde, parce qu'il s'y passe des violations graves. Il s'en est passé beaucoup autrefois, et il s'en passe encore actuellement, puisqu'on a le problème des Ouïghours. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis, d'une manière générale, de la liberté d'expression. Alors, les deux films. Le premier film s'appelle The Sweet Requiem. Il a été réalisé par Ritu Sarin et Tenzing Sona. Tenzing, c'est bien un prénom tibétain. Et l'histoire, voilà, c'est quand une jeune femme tibétaine en exil aperçoit de façon inattendue un homme de son passé, des souvenirs longtemps refoulés de son évasion traumatisante à travers l'Himalaya sont ravivés et elle est propulsée dans une quête obsessionnelle de réconciliation. Voilà le thème du premier film. Le deuxième film, c'est un documentaire sur Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. C'est un film de Pierre Aski, qui a également réalisé un livre que vous pouvez vous procurer à la librairie, dans toutes les librairies. Voilà, au printemps 1989, lorsque les étudiants occupent la place Tiananmen à Pékin, Liu Xiaobo, chercheur en littérature chinoise et orateur hors pair, devient l'un des mentors du mouvement. Peu de temps avant que ne débute le massacre, dans la nuit du 3 au 4 juin, il supplie la jeunesse d'évacuer la place et entame une grève de la faim pour demander au pouvoir d'éviter la violence. Arrêté le 6 juin, il est envoyé en camp de rééducation. À sa libération, un an et demi plus tard, il choisit de demeurer en Chine et de résister de l'intérieur, tandis que nombre de ses compatriotes optent pour l'exil. Arrêté en 2008 pour avoir co-rédigé la charte 08, programme pour une transition démocratique en Chine, il est condamné à 11 ans de prison pour subversion du pouvoir de l'État. Toujours incarcéré en 2010, il ne peut recevoir en personne le prix Nobel de la paix qui lui est décerné à une chaise vide. Et d'ailleurs, on l'a représenté avec le symbole de la chaise vide. Et il meurt en captivité en juillet 2017. Aujourd'hui, le régime chinois met tout en œuvre pour que le nom de Liu Xiaobo soit oublié, multipliant la censure à l'intérieur de ses frontières et les pressions sur le reste du monde. Mais en 2008, le dissident avait confié son testament politique et personnel sous la forme d'une longue interview filmée par François Cowell. Elle sert de trame au journaliste Pierre Aski pour faire le portrait d'un homme qui, toute sa vie, se battit pour ses convictions et en paya le prix fort. Il convoque notamment ses compagnons de lutte, ainsi que sa veuve, la poétesse Liu Xia, longtemps placée en résidence surveillée et maintenant exilée en Allemagne. Donc, cette soirée Chine, avec ses deux films va se dérouler ainsi. Ce sera le vendredi 6 mars 2020 à 18h au Ciné-Étoile de Digne-les-Bains. Nous aurons donc la présentation de Jean-Philippe Béja, qui était aussi l'ami de Luc Xiao, le prix Nobel de la paix. Ensuite, on va passer le premier film, The Sweet Requiem. Il y aura un petit débat, mais court. Et ensuite, nous inviterons les gens dans le hall du Ciné-Étoile pour un buffet. Ils pourront ainsi regarder les stands d'Amnesty et le centre de l'association Alexandra Davinel. Et comme ça, attendre le deuxième film à 19h30. Donc de 19h30 à 20h30, pardon. Alors 18h, je vous redis, 18h le premier film. 19h30, 20h30, un petit débat suivi d'un buffet dans le hall. 20h30, le film sur Luc Xiaobo, l'homme qui a défait Pékin. Et ensuite, de 21h30 à 22h30, nous aurons un débat avec Jean-Philippe Béja. Voilà le programme de cette soirée. Je vous rappelle, le vendredi 6 mars. Alors, on a fixé un tarif modique, puisque c'est 10€ les deux films et le buffet. Vraiment pour que les personnes puissent venir en nombre assister à cette soirée exceptionnelle.
Tu peux rappeler le titre,
L'homme qui a défié Pékin.
Défié Pékin.
Luc Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Et le premier film, donc c'est un film sur des réfugiés tibétains qui ont traversé l'Himalaya, ça s'appelle The Sweet Requiem. Voilà, donc je pense que ça va être passionnant. Donc... le tarif, c'est 10€ la soirée, les deux films et le buffet. Et si vous voulez n'assister qu'à un seul film, bon, ben, c'est 6€ le film, l'un ou l'autre. Voilà, mais je vous invite vivement à assister à toute la soirée. Hein. L'association Alexandra Davinel va préparer du thé pour tout le monde. Et puis, le groupe d'Amnesty va préparer un buffet pour se ravitailler et assister ainsi au deuxième film et puis surtout au débat avec Jean-Philippe Béja. On va maintenant à nouveau écouter notre ami Graham Allwhite, Il faut que je m'en aille. Le voilà.
Gloops. Gloops.
Il est arrivé.
C'est parce que je voulais pas qu'il s'en aille.
Eh oui.
Chanter quand le verre est bien rempli. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi cet été, la première fois qu'on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison en chantant, on marchait à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile. Sur un navire, j'ai mis la voile. Pour n'être plus qu'un étranger, ne sachant plus très bien où il allait. Du vent encore, une dernière fois, à l'amitié. L'amour, la joie, on a fêté nos retours.
raconter mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. Vivant encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi t'es marié, t'as trois enfants à faire manger, mais j'en ai cinq si ça peut te consoler. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille.
On continue donc avec la Chine. Après avoir persécuté les Tibétains, le gouvernement chinois intimide et persécute les Ouïghours et d'autres groupes ethniques musulmans, et même les Ouïghours qui sont installés à l'étranger. En effet, les membres de cette minorité ne sont pas en sécurité même quand ils ont quitté le pays. Le gouvernement chinois trouve le moyen de les atteindre, de les intimider et finalement tente de les ramener vers un sort bien sinistre, y compris en faisant pression sur d'autres gouvernements pour qu'ils les expulsent. Nous avons collecté des informations sur des membres de groupes ethniques majoritairement musulmans, installés dans 22 pays. Parmi eux, 400 Ouïghours, Kazakhs et Ouzbeks. Leur récit révèle le harcèlement et la peur qu'ils vivent au quotidien. Plusieurs ont déclaré que les autorités locales du Xinjiang s'en prennent à leurs proches restés au pays afin de faire pression sur leur activité à l'étranger. D'autres affirment que les autorités chinoises les ont contactés via des applications de messagerie de réseaux sociaux pour leur faire peur. Ces témoignages illustrent la portée mondiale de la campagne orchestrée par la Chine contre les Ouïghours, les Kazakhs et d'autres personnes originaires du Xinjiang. On estime qu'au moins 1 million de personnes sont détenues dans des centres de transformation par l'éducation ou de formation professionnelle. C'est une vieille pratique en Chine. Elles y subissent de nombreuses violations des droits humains. En début de semaine, un document officiel chinois de 137 pages a été divulgué à plusieurs médias internationaux. Il listait des informations précises sur des personnes originaires du Xinjiang. Des critères comme leur habitude religieuse et les relations personnelles y déterminaient l'affectation ou non dans les camps de rééducation. Bien que la Chine continue à nier l'existence des camps d'internement, les preuves s'accumulent. Toute personne renvoyée vers le Xinjiang risque fortement d'être internée dans un camp et de subir de graves violations des droits humains. Tous les pays qui accueillent des membres de la diaspora du Xinjiang doivent prendre des mesures pour les protéger contre tout acte d'intimidation et bloquer leur renvoi forcé vers la Chine. On continue avec une chanson de Grey Molloy White, Deux jeunes frères.
Deux jeunes frères sont partis, deux jeunes frères ont choisi. Deux jeunes frères sont partis, vêtus de bleu, vêtus de gris. Vêtus de bleu, vêtus de gris, marchant au pas, ils sont partis. Batté tambour, ils sont partis. Un beau matin d'été, l'un est doux, l'autre l'autre gentil, l'un est doux, l'autre gentil. L'un verra plus son pays, un qu'un on lui ôta la vie. Un qu'un on lui ôta la vie, un qu'un on se passe de votre avis. Que l'on soit doux ou bien gentil, un beau matin d'été. Deux jeunes filles sur le quai d'une gare, deux jeunes filles sur le quai d'une gare. L'une en bleu et l'autre en noir, l'une en bleu et l'autre en noir. L'une en bleu et l'autre en noir, leurs amoureux elles vont revoir. Fais-tu de bleu, fais-tu de noir, un beau matin d'été.
Voilà, on ne pouvait pas parler de la Chine sans évoquer la crise du coronavirus. Et là, je voulais vous parler d'une personne qui s'appelle Xu Ziyong, excusez-moi la prononciation. Il est dans le collimateur des autorités depuis qu'il a assisté à une réunion de militants des droits humains à Xiamen en décembre et critiqué la gestion de la crise du coronavirus par le président. Plus de 10 personnes présentes à cette réunion ont depuis été convoquées ou arrêtées. Il a fait l'objet d'investigations et se trouve aujourd'hui en détention, exposé au risque de torture. L'arrestation de Xu Ziyong montre que la lutte du gouvernement chinois contre le coronavirus ne le détourne en aucune façon de sa campagne globale. Celle-ci vise à étouffer toutes les voix discordantes et attaque la liberté d'expression. Xu Ziyong et ses co-détenus n'ont commis aucun crime. Ils sont ciblés uniquement en raison de leur militantisme pacifique et doivent être libérés immédiatement et sans condition. C'est un éminent juriste et un militant chinois connu pour son travail en faveur des groupes défavorisés et pour sa promotion d'un mouvement des nouveaux citoyens qu'il a lancé en 2012. Il a déjà été incarcéré en raison de ses activités militantes pacifiques et a passé 4 ans de prison pour des accusations forgées de toutes pièces de troubles à l'ordre public. Il avait été libéré en 2017. Il a été arrêté le 15 février au soir, alors qu'il se trouvait au domicile d'un autre militant, qui avait lui aussi dénoncé la censure de la Chine sur le débat concernant le virus. Donc je vous invite vivement à venir à cette soirée du vendredi 6 mars pour parler de tous ces problèmes avec un spécialiste de la Chine, M. Jean-Philippe Béja. Donc c'est le vendredi 6 mars au Ciné-Étoile, de 18h. À 22h30, soirée spéciale Chine. Et maintenant, je laisse la parole à Gérard qui va vous parler de ce qui va se passer le samedi 7 mars, le lendemain.
De la Méditerranée jusqu'aux Alpes, des personnes migrantes et réfugiées n'ont pas d'autre choix que de mettre leur vie en danger pour se mettre à l'abri. Des hommes et des femmes, marins, professionnels de la montagne, citoyens, viennent au secours de ces personnes. Pourtant, loin d'encourager ces gestes évidents d'humanité, les États européens, dont la France, intimident, harcèlent et poursuivent ces acteurs solidaires. En solidarité avec les personnes exilées et celles et ceux qui leur viennent en aide, rejoignez-nous le 7 mars pour une journée de mobilisation dans les Hautes-Alpes. Rendez-vous à 14h à Briançon, au cinéma Vauban, pour la grande rencontre des Européens solidaires. Une conférence publique pour échanger avec celles et ceux qui font vivre la fraternité partout en Europe. Nous partirons ensuite à 18h en grande maraude solidaire depuis Montgenèvre au-dessus de Briançon. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook.
Donc, pour ce festival qui s'appelle Au cinéma pour les droits humains, il y a la soirée du vendredi 6 mars au Ciné-Étoile. Et nous prévoyons à la fin du mois, le jeudi 26 mars à 18h30, une séance de court-métrage gratuite, ouverte à tous. Donc il y aura une première partie de 6 courts-métrages d'animation. Et puis un court-métrage un peu plus long qui est un documentaire qui n'est pas un film d'animation. C'est un documentaire sur une journée dans la vie d'une famille de réfugiés alors qu'ils se rendent à un cours de Mokojambi, c'est-à-dire de marche sur échasse à Trinidad et Tobago. Et à Trinidad et Tobago, quand vous marchez sur des échasses, vous êtes automatiquement très considéré. Voilà, donc ça sera le jeudi 26 mars à 18h30. Une séance gratuite de court-métrage. Hein, ça, on n'a pas l'occasion de voir souvent des courts-métrages au cinéma. Et là, le groupe d'Amnesty offre à toutes les personnes intéressées cette soirée, en partenariat bien sûr avec Cinétoile qui nous prête la salle pour cette soirée gratuite. Voilà, et puis bon, on va finir avec Grim All White, comme on a commencé, avec cette très belle chanson, Je m'envolerai.
Une belle journée, quand cette vie s'achève, je m'envolerai vers un merveilleux pays de rêve. Je m'envolerai, volerai, je m'envolerai tout là-haut. Je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai, volerai. Plus de soucis, de peine dans ce monde, je m'envolerai de cette prison comme une colombe. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai tout là-haut. Je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai, volerai. Encore quelques journées de douleur et je m'envolerai vers une terre où règne le bonheur. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai tout là-haut. Je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai tout là-haut. Je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai au matin. Je m'envolerai sûr et certain quand je meurs. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai. Thank you.